cobuzz.com. Rencontre par Mark Zisman.
Jean-Pierre Pédron.
Bonjour.
Vous publiez un nouvel album sur un nouveau label pour vous qui s'appelle Label Act.
Act.
Toujours des beaux projets et le vôtre est pas mal, il s'appelle Cheerleader.
Ouais.
Projet un petit peu atypique, on va pas mal en parler.
D'accord, avec plaisir.
Projet qui notamment était possible, je crois, vous nous raconterez l'histoire grâce à de gentils donateurs, comme on dit, parce que c'est un projet qui était ambitieux en termes d'écriture, en termes de réalisation.
Ouais.
Donc avant peut-être de rentrer dans le détail, est-ce que finalement, parfois on se dit que l'art, ou enfin la musique, ou la crème, pour ce qui vous concerne, peut être parfois pieds et mains liés avec les conditions dans lesquelles on vit, c'est-à-dire que la création peut venir parfois des moyens qu'on va avoir la chance
Ben oui, j'ai envie de dire de plus en plus, malheureusement, les labels qui nous proposent justement de nous produire et de faire des enregistrements ont de moins en moins les moyens. Donc du coup, effectivement, ça peut, je pense, resserrer un petit peu le budget créatif. Et pour le coup, ça peut bloquer effectivement, dans le sens où au lieu d'avoir 3 jours de studio, on peut avoir une demi-journée ou un jour... puis voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que ben finalement c'est pas facile pour la création non plus.
Ça bride en fait d'une certaine manière parfois personnellement sur ses visions artistiques personnelles.
Ça dépend ce qu'on a envie de faire. Si on a bien préparé le terrain au préalable et puis si on a un petit projet qui est pas vraiment super ambitieux mais qui est au top, on peut très bien l'enregistrer en 2 jours de studio. Il n'y a pas vraiment de règles. En ce qui me concerne, moi, je voyais un truc assez conséquent, assez ambitieux. Donc là, avec un petit budget, ça n'a pas été possible. Hein.
Donc un projet un peu assez kaléidoscopique, éclectique, je sais pas, on aime bien mettre des étiquettes sur plein de choses.
Ouais.
Alors c'est du jazz, certes,
ouais.
Mais du jazz un peu bombardé de plein de choses,
ouais.
Qui ont traversé, j'imagine, votre vie musicale, votre jeunesse, tout, enfin ce que vous êtes aujourd'hui.
Les influences.
Un peu quand même, un petit peu lié aussi peut-être au disque précédent.
Oui, Omri.
Omri en grande partie, c'est-à-dire est-ce que c'est un peu quoi, c'est le fils de la vengeance, c'est une suite, c'est est-ce que finalement déjà à partir d'Omri, il y avait déjà des idées liées à Cheerleader ou est-ce que le projet était plus antérieur en fait?
Non, c'est-à-dire que après Omri, il aurait pu y avoir une autre solution, c'est-à-dire refaire ce que je faisais avant Omri, c'est-à-dire faire un album en petite formation dans un contexte un peu plus traditionnel, post-néo-bop comme on dit. Voilà, ça aurait pu être possible, encore un enregistrement à New York, et puis, puisque ça a été un petit peu Omri, ça a été une histoire assez importante dans la mesure où ça démarquait complètement de ce que je faisais auparavant. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait? C'est-à-dire que ça me permettait à la fois d'avoir un nouveau public, mais peut-être de perdre un autre public que j'avais sur Deep in the Dream, qui était un album que je disais axé plus sur la tradition, sur ce qu'on appelle vraiment le jazz, quoi, le jazz acoustique. Et ben, plutôt que de faire ça, j'ai eu envie de continuer encore l'aventure électrique et puis d'aller un petit peu au bout des choses. C'est-à-dire que il y a aussi le fait de connaître ces gens dont on parlait en introduction, qui m'ont permis justement de réfléchir un petit peu sur ce que j'avais envie de faire et ce que j'ai envie de faire, c'était quelque chose d'assez assez produit finalement. Sur une idée de base qui était effectivement, là, comme on en entend parler, cette histoire de fanfare. Voilà. J'avais envie de partir d'une idée, c'est-à-dire de faire une histoire à partir d'un objet sonore, voilà, d'écrire un film sonore.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, il y a une cassure entre l'avant Omri et l'après ?
Pour moi, non. Pour moi, non. Mais pour plusieurs personnes, oui. C'est-à-dire que c'est deux styles complètement différents. Moi, à partir du moment où j'estime, où je suis toujours saxophoniste, j'ai toujours le même son de saxophone. Mes phrases n'ont pas changé, j'ai toujours la même culture saxophonistique. Donc à partir de ce moment-là, l'histoire, elle continue, elle évolue en fait.
Alors question, est-ce que, en fait, c'était pas, j'allais dire, est-ce qu'Omri n'était pas finalement vital pour vous, pour votre évolution, même si vous êtes vous-même dans tous les projets, honnête avec vous-même, comme vous l'avez dit, vous êtes, voilà, ça ne change pas. Est-ce qu'il y avait aussi besoin de changer de braquet d'une certaine manière, ce que le public allait percevoir comme un changement de braquet? Parce que vous aviez l'impression peut-être d'être enfermé ou d'être stocké dans un... On aime bien mettre des étiquettes, oui, sur les musiciens, sur les albums, sur les choses. On aime bien, la société, mettre, voilà, lui, c'est case numéro B3.
Je suis bien d'accord.
Etc. Est-ce qu'il y avait aussi, peut-être aussi l'envie de brouiller les pistes, parce que le mot est peut-être pas... C'est trop fort, mais de...
C'est simplement... je voulais simplement être en phase avec moi-même. C'est-à-dire que, dans le sens où je n'ai pas fait cet album-là pour certaines personnes... ou pour embêter certaines personnes, j'ai simplement envie de le faire parce que je le sentais comme ça, et c'est venu tout de suite. Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens donnent des étiquettes comme ça, et même les musiciens entre eux. Ah voilà, Pierrick, il est dans ce contexte bebop, machin, ça va, maintenant il fait plus partie de la famille, il est dans un contexte un peu plus rock, machin, enfin, c'est comme ça. Bah, je me dis que j'ai 42 ans maintenant, et j'ai envie d'assumer pleinement mes idées artistiques et mon contexte créatif, moi, entre parenthèses, hein, humblement parlant, mais j'ai pas envie de faire un album puisque j'ai l'étiquette de ça, donc il faut que je continue dans ce truc-là, pas du tout. J'ai la chance de faire de la musique, c'est quand même beaucoup de chance, bah, autant faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Puisque je peux faire des disques, autant que ça soit des disques que j'assume, et puis voilà.
Est-ce que ça veut dire que c'est plus dur justement d'être soi-même dans une musique comme le jazz que dans d'autres musiques? Est-ce que par rapport à cette histoire d'étiquette, même si c'est valable sur d'autres genres, est-ce que dans le jazz on est, mais même de vous dire vous-même que parfois c'est même les musiciens entre eux plus que le...
Ben oui, parce qu'il y a des musiciens qui font cette musique-là pour l'amour de cette musique, mais quand on fait des disques, il y a des musiciens qui font des disques aussi pour que ça marche, pour qu'on puisse en vendre. Je dis pas que je fais des disques pour pas que ça soit vendu, loin de là. Je souhaiterais en vendre 1000 fois plus si c'était possible, des disques, mais simplement, en faisant un projet comme ça, je sais pas du tout si ça va marcher ou pas, si les gens vont aimer ou pas. C'est un risque. Moi, je pense que faire un disque, il faut que ça soit une prise de risque. Soit tu te plantes, soit ça fonctionne. Et il y a divers artistes qui ont peut-être l'intention de faire des disques, mais pour que ça marche, voilà. Pour que ça soit quelque chose de, disons, peut-être plus facile à écouter, passable sur les différentes radios, enfin je sais pas. Moi j'ai pas du tout pensé à ça en faisant Cheerleaders, en tout cas. Thank you.
Comment s'est déroulée justement l'écriture? Est-ce qu'il y avait des... Vous aviez vraiment l'idée en tête précisément? Il y a des choses qui se sont faites au fur et à mesure. Bon, il y a toute une équipe autour de vous sur ce projet, musiciens, production, etc. Comment a avancé la machine? Est-ce que vraiment toutes les bases étaient dans votre tête ou ça a évolué en cours de route, d'enregistrement, etc.?
Bah, tout est parti un petit peu en même temps, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que effectivement, je jouais dans un contexte dans un bar à Honfleur, en Normandie. Et j'ai discuté avec les deux personnes dont on parlait tout à l'heure, qui sont des amoureux de la musique et qui me suivent partout depuis quelques années. Voilà. Mmh. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Mmh. Et c'est un couple de personnes remarquables, gentilles et qui venaient de me voir tout le temps. Donc, à la fin des concerts, j'avais des bouquets de roses, des choses comme ça. Enfin bon, voilà, c'était impressionnant. Puis à force de les voir, quand même, je me suis dit, bon, je vais quand même m'intéresser un petit peu à eux. Et c'est quand même incroyable d'être fan à ce point-là. Je me suis dit, pourquoi? C'est bizarre. Et on discute plusieurs fois. Et puis à Honfleur, ce soir-là, on parle un petit peu de la difficulté de production. Parce que pour ces gens-là, pour moi, c'était... Omri, j'avais vendu 100 000 albums, j'étais vraiment installé dans le paysage de jazz, tout allait bien, tout était facile. Et je leur ai dit que non, pas du tout, et qu'il n'y avait rien de gagné, et que c'était même très difficile, et que Omri, j'avais. C'était une production de jazz de maintenant, et qu'on avait eu les moyens que la maison de disques a pu mettre, en l'occurrence, assez loin d'être un reproche. C'est-à-dire qu'on fait en fonction de ce que les gens peuvent produire. Et donc voilà, c'est un. Voilà. Et puis ils m'ont dit, bah, écoute, nous, on aimerait bien t'aider en fait. On aimerait bien t'aider. Est-ce que tu as une idée de production? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire? J'ai dit, oui, j'ai des fantasmes musicaux, des fantasmes de production, rester pendant plusieurs jours de suite, pendant presque une semaine dans le même studio, bosser jour et nuit, comme le faisaient les groupes pop dans les années 70, les groupes de rock. Avoir le temps de faire les choses et puis de refaire des choses. Enfin voilà, prendre le temps et pas faire un album, parce qu'en jazz, c'est très courant, de faire un album en 3 jours, en 2 jours, comme ça, hop, et puis c'est bon, le truc, il sort 6 mois plus tard. Maintenant, il fallait recueillir assez d'argent pour pouvoir avoir l'opportunité d'organiser les choses. Et ces gens-là m'ont donné le feu vert. Ils m'ont dit, bon, ben voilà, ça va coûter combien à peu près, cette idée? Donc, on discute, on fait connaissance. Et puis, franchement, j'y croyais pas trop, moi. On met un petit chiffre.
Sur la calculette.
Ouais, c'est un petit peu ça, finalement. On met un chiffre sur le papier. Et puis, ils disent, ben écoute, on va essayer. Allez. Alors je leur dis, ça veut dire que je peux commencer à organiser les choses. Ouais, ouais, c'est bon. Nous, on s'occupe de ça. Toi, tu t'occupes de l'aspect artistique. C'est tout. Et ben, ils ont travaillé comme des fous. Ça n'a pas été évident pour eux, j'imagine. Mais en tout cas, on a recueilli suffisamment d'argent pour pouvoir produire un album nous-mêmes. Alors, de ce fait, on a monté une assoc qui s'appelle Pedro Amori. C'est devenu pas conséquent, mais c'est une petite entreprise toute minuscule, mais qui est importante pour nous et qui va sûrement faire vivre encore ces projets-là. L'idée après, c'est de savoir ce que j'allais faire. J'avais une petite idée déjà. Je voulais construire quelque chose autour d'une fanfare, parce que non pas la fanfare funk qu'on entend régulièrement dans les rues de Paris, mais un truc très populaire en fait. Parce que moi, je viens d'un milieu très populo en Bretagne, où il y avait, comme maintenant, les kermesses, les défilés de majorettes, les trucs, les fanfares et tout. Et puis moi, je suis un gars du bal, donc je venais du baluche, il y a tout ça. les disques qu'on écoutait, que j'écoutais quand j'étais môme, que mes parents écoutaient. Donc on est toujours influencé par ça. Ça, c'est des trucs, c'est l'éducation musicale. Quand on est tout môme comme ça, c'est de là que tout part, finalement. Et les projets du futur viennent de ce moment-là. Alors ça, ça a toujours été un petit peu dans ma tête, quoi, cette idée de construire quelque chose autour d'une fanfare. Donc l'idée, c'était d'écrire, de composer des thèmes de fanfare. Donc j'ai commencé par un thème numéro 1, que j'ai appelé comme ça Coupe 2. C'est un nom de code, en fait, que j'ai appelé Coupe 2, et qui fait... C'est un thème qui revient d'ailleurs sur le disque de Cheerleader. Ça a été le premier thème que j'ai écrit. Et après, j'ai fait que, enfin, et pendant ce moment-là, je suis peut-être un peu fouillis, je vais un petit peu dans le désordre, mais je me rattrape dès que je peux. Ludovic Bourg, c'est un compositeur de musique. Il a notamment écrit la musique de The Artist, le film qui vient de sortir d'Azanavicius, là, Léo et 1617.
C'est avec Bachung aussi.
Bachung, ouais, il a fait plein de choses. Et Ludo, c'est un vieux pote d'enfance, en fait. On a commencé la musique ensemble en Bretagne, il faisait de l'accordéon. On a travaillé ensemble dans les années 90 dans des groupes de funk avec Juan Rosoff. On avait un groupe de funk qui s'appelait les Zucchini Metal Flasher. On répétait à l'usine éphémère à Asnières. On traînait pas mal à l'hôpital éphémère, dans toute cette clique-là où il y avait plein de groupes à l'époque. Notamment des jazzmen un peu connus comme Magic Malik, Julien Louraud, et traînait dans ces endroits-là. Et puis, donc voilà, moi j'ai navigué un petit peu dans ce milieu-là. Donc Ludo, moi, à ce moment-là, on était assez proches, on s'est perdu de vue. Et puis un jour, je lui ai fait écouter Omri. Il m'a dit, écoute, moi j'adore ce projet-là. Si un jour tu as besoin de moi pour un autre projet, je suis là, je pourrais te donner des conseils. Et puis là, j'en ai parlé, je lui ai dit, écoute, voilà, il se passe ça, j'ai une opportunité d'avoir cet argent-là pour produire un disque. Mon idée, c'est de faire un truc autour de la fanfare. J'ai commencé un peu à composer. Il me dit, écoute, vas-y, moi ça me branche bien cette idée. Donc il sera le directeur artistique de la séance. Et régulièrement, je lui envoie des morceaux que je compose comme ça, en fichier MP3, puis il me dit ce qu'il en pense, et puis voilà. Donc les morceaux se font petit à petit comme ça. Je compose 5 ou 6 morceaux qui sont des petites suites de fanfare. Et une fois que j'ai ces morceaux-là, je demande à Vincent Artaud de me les arranger, de faire en sorte que ça sonne comme une fanfare, mais qu'il y aurait un morceau très simple à écouter en deux temps. Et puis après, avec des mesures asymétriques, une démarcation d'un thème, mais sous diverses contextes, voilà, musicaux. Il fait un travail d'arrangement chez lui, me fait écouter, ça me plaît beaucoup. On organise une séance d'enregistrement dans un studio d'enregistrement à Paris. Et Julien Birot nous enregistre toute la journée cette séance de 17 cuivres. Et là, on a 17 gars qui sont là, qui enregistrent des petites suites comme ça. Donc voilà, j'ai déjà ces suites. C'était au mois de mai 2010. Et on fait ça en une journée. Et je reviens avec un CD chez moi, et j'ai déjà la suite, et j'ai déjà une petite suite de fanfare. Mais il reste encore tout à faire, c'est-à-dire que il reste à faire la musique du quintet, à organiser le répertoire pour le quintet, parce que ça, c'est une étape, c'est des morceaux que j'ai, je vais mettre dans un coin, mais je vais m'en inspirer, et je vais composer d'autres morceaux, qui seront des morceaux, disons, de ce que j'ai l'habitude d'écrire pour un groupe, pour un quintet, en l'occurrence, quelque chose de jazz. Excusez-moi. Je commence à bosser, et puis comme je crois toujours pas à cette histoire, même si ça me paraît complètement surréaliste de pouvoir faire un disque comme ça, il y a déjà les fanfares qui sont enregistrées. Ludo Bourse me dit, écoute, moi j'ai bossé avec un mec, avec Bachung, qui s'appelle Jean Lamotte. Tu le connais? Bien sûr, je connais Jean de réputation, j'adore, je suis fan de son travail, j'aime bien le son qu'il fait. Et ben il me dit, ben écoute, c'est bien, c'est pas difficile, je voudrais bosser avec lui en binôme, et on te propose d'enregistrer à l'ICP à Bruxelles. On a bossé dans le studio B à Bruxelles, à l'ICP, pour le disque de Bachung, qui s'appelle L'Imprudence. Est-ce que tu serais d'accord pour enregistrer dans ce studio-là? Ben, je dis oui, pour moi c'est un rêve. Tu vas sur internet, tu vas voir ce qu'est un peu l'ICP, c'est juste une caverne d'Ali Baba, quoi. C'est un truc, puis le CV de ce studio-là est assez impressionnant. On va là-bas, On va faire un petit tour juste pour prendre des marques. On est trois ou quatre, je sais plus. Enfin bref, on regarde un peu le studio, le matos et tout. On prend un premier contact avec John Astie, le patron. Et puis le courant passe bien. Et bref, quand est-ce que vous voulez enregistrer? Et moi, je précipitamment, j'ai dit, OK, ben, je vais enregistrer le plus tôt possible au mois d'août. Et on était au mois de mai, tu vois. Ça devait être pendant les fanfares qui étaient déjà enregistrés à Paris. Et là, il fallait vraiment faire vite parce que j'avais pas tous mes morceaux. Il fallait organiser des répés, ce qui était hors de question d'aller là-bas sans matos, quoi. Je voulais vraiment que tout soit fait. Donc, j'ai travaillé comme un fou. J'ai fait des compositions, machin, tout ça. Et on a organisé une série de répétitions à Montreuil, au studio 440. Et voilà, une fois qu'on avait répété, qu'on avait déchiffré un petit peu et défriché tous les morceaux, bah, le rendez-vous était pris. C'était un peu rapide, je l'admets, mais je ne voulais pas perdre de temps. Tant qu'on avait cette opportunité d'enregistrer cet album, je ne voulais pas me dire « Oh, on va attendre, on va prendre le temps, on a le temps, on va faire ça dans un an, peinard. » Ce qui aurait pu être le cas. Mais moi, j'étais impatient et je voulais que les choses se fassent le plus vite possible. On a fait un gros boulot sur les morceaux que j'amenais, donc qui étaient des compositions. Chacun a un rôle établi, une vraie hiérarchie en fait dans cette équipe. C'est-à-dire que Vincent Artaud, lui, s'occupe des arrangements de la fanfare. Laurent Coq, lui, s'occupe des arrangements des morceaux pendant les répétitions. Et puis voilà. Et puis c'est un groupe qui porte mon nom, certes, mais... C'est un endroit où chacun expose ses idées, où si par exemple, moi j'amène une compo qui est un peu pas terrible, donc les gars vont me dire attention, là fais gaffe, t'es d'accord, ça marche pas, on va arranger ça. Bref, on fait un vrai travail d'équipe en fait, sur les morceaux. Après, on est prêt, on part tous à Bruxelles, toute l'équipe, plus une personne qui s'appelle Élise Dutartre. Alors elle est très importante, cette personne, parce que elle va mettre en image, si je puis dire, tout le travail qu'on va faire. C'est-à-dire qu'elle prend plein de photos et elle filme toutes les séances, y compris les séances de fanfare qui ont eu lieu un mois avant. Donc elle est là, elle est dans son petit coin et elle filme tout, elle prend des photos, machin et tout ça. Nous on enregistre, pendant une semaine on est là-bas, avec Jean, avec Ludo, et là c'est une aventure... Un rêve, quoi. C'est-à-dire que je me souviens voir encore les gars, Chris De Paul, guitariste, et Vincent Artaud, descendre au sous-sol de l'ICP avec un petit caddie en mettant des effets dedans. C'est-à-dire qu'on se serait cru dans un supermarché avec le tourniquet. Et là, il y avait des armoires de pédales d'effets, des guitares, des batteries. T'es comme un môme là-dedans. Tu regardes ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Et puis les amplis, des... Et puis le gars qui s'occupe de ce petit supermarché, il s'appelle Bill Funk, il connaît
tout par cœur.
Il dit, ah bah tu vois là, il a un accent comme ça, tu vois là, il y a l'ampli là, cet ampli là, c'était joué par les Floyd sur tel album et tout. Alors là, il y a cet ampli là qui est très rare, c'est très rare. Non, c'est... Ils te racontent des histoires pas possibles et là tu regardes, tu salives quoi. Et ils ont un parc de micros des années 40, 50, enfin des trucs.
Magasin de jouets.
Mais ouais, c'est, et puis tout est entretenu, les studios, les vieilles tables. C'est vraiment incroyable. Et puis c'est un endroit où on vit, puisqu'il y a un c'est mitoyen, un immeuble où il y a chacun a sa piole avec son écran plat. Il y a des jeux vidéo pour les passionnés. Il y a des flippers, des billards, des baby-foot. Enfin, il y a une piscine, il y a une salle de muscu pour les sportifs. C'est un truc de fou, quoi. Et on se retrouve là-dedans, dans ce contexte-là, pendant une semaine. Et là, c'est très intense. C'est-à-dire que là, on enregistre. Jean Lamotte est derrière sa table. On ne l'entend pas. Voilà. Il a fait toute son installation de micro. On a passé un peu de temps à faire ça. Et puis là, hop, il est derrière sa table et plus rien ne se passe. C'est-à-dire que lui, il bouge les boutons, c'est tout. Maintenant, c'est Ludovic Bourse qui va faire tout le boulot. C'est lui qui nous dit non, les gars, ça va pas. Là, c'est bien. Là, il fait un vrai rôle de directeur artistique. Moi, de toute façon, j'ai décidé que comme les rôles étaient attribués, et j'ai bien dit à tout le monde que lui faisait son travail et qu'on n'allait certainement pas lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, on respectait son travail, quoi qu'il arrive. Même si ça nous plaît pas, si l'ego en prend un truc, c'est pas grave, c'est son boulot. Voilà. Après, il est assez intelligent pour parler aux gens, et nous aussi. Donc, à partir de ce moment-là, tout s'est bien passé. C'est-à-dire, quand il nous demandait de faire un truc, on le faisait. Si vraiment, on n'avait pas envie, je me souviens plus de ne pas avoir eu envie de faire ce qu'il nous proposait. Mais en tout cas, les choses allaient assez rapidement comme ça. On se retrouvait autour de table le soir, dans le studio, très convivial. On retravaillait après. Le lendemain, on se levait tôt, on répétait. Enfin, ça a été ça pendant une semaine. Alors, ce qui s'est passé après, c'est qu'une fois qu'on est sorti du studio, avec une belle mise à plat, Jean Lamotte nous avait fait une belle mise à plat qui était presque un mix final, tellement il assure. Donc, ben voilà, on fait ça dignement pour un dernier jour de studio, on écoute les morceaux. Et jusqu'à présent, on avait sur un autre CD les fanfares, mais qu'on n'avait pas utilisé, on n'avait pas eu le temps de faire un montage. Parce qu'on n'a jamais le temps en studio, même si on a du temps, on n'a jamais le temps. C'est toujours comme ça. Et là, on se dit, bon, c'est vrai qu'on a un truc pas mal sans les fanfares. Et il y a des gars du groupe qui me disent, écoute, Pierrick, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, cette histoire de fanfares. On ne va pas réussir à faire en sorte que ça soit cohérent. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Faut essayer. Ok, faut essayer. Et c'est Vincent Artaud qui, dans son appartement à Chapelle, là, lui, il a un ordinateur Pro Tools, machin, donc il peut faire du montage. Et un jour, il prend la mise à plat, il prend les morceaux des fanfares, il coupe un peu dedans les morceaux de fanfares, et puis il nous propose comme ça un disque avec des montages assez vulgaires, mais bon, qui pourrait nous donner une idée de ce que pourrait comment pourrait sonner le disque. On écoute le truc, on se met d'accord, ça nous plaît bien, on sent une bonne histoire arriver, et on file le bébé à Jean Lamotte. Et c'est Jean Lamotte qui va faire le son du disque. Donc le gars, il nous dit, bon, moi, je veux prendre le temps de faire le disque, hein, ça peut durer un mois, ça peut durer deux mois, mais moi, je procède comme ça, c'est-à-dire que je bosse trois jours sur le projet, après, je bosse sur un autre projet que j'ai, ou sur un autre, et puis après, je reviens. J'ai pas envie de faire comme ça, tout d'un coup, machin, tout ça, je veux que mes oreilles se reposent, et lui travaille comme ça. Et il a bien raison. Puis un jour, il nous appelle, il nous dit, bon, bah, les gars, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Bon, c'est peut-être pas définitif, mais ça va vous dire quelque chose. Et là, on se pointe là-bas, on est 5 ou 6, avec Ludo, Laurent, Vincent, Michel et Deniso, les deux personnes qui ont contribué à faire en sorte que le projet existe. Et là, la claque. On est assis sur un canapé, et là, on ne croit pas le son. Et ce jour-là, Élise Dutartre, elle est là. Et c'est à ce moment-là, on a l'impression d'écouter un musique d'un film ou de regarder un film avec ses histoires de fanfares, avec ses sons, parce que Jean Lamotte a rajouté des effets sur les fanfares, il a incrusté des sons, des fois il a fait une sculpture sonore de tout ce qu'on lui avait proposé. Et là, on s'est tous dit, punaise, ça marche, le truc, il est cohérent. Élise, elle nous dit, oh là là, là c'est un film, moi je vois un film, et tout le monde était un peu d'accord sur le fait qu'effectivement, on avait l'impression de regarder un film sonore. Et là, elle me dit, écoute, c'est marrant, parce que concentre ton histoire sur un personnage, en fait, parce qu'on entendait des morceaux qui évoquaient plutôt de la tristesse, d'autres morceaux qui évoquaient plutôt l'amour, d'autres des trucs plus trash, enfin, ça nous faisait penser à plein de choses. Et elle nous dit... elle me dit, concentre ton histoire sur un personnage, en l'occurrence, s'il y a une fanfare, il peut y avoir une majorette, on peut imaginer, parce que c'est un prétexte, hein, cette majorette, elle n'existe pas au début du projet, elle n'existe pas pendant, elle arrive à la fin quand l'histoire est construite, où on se dit, effectivement, pourquoi pas y mettre une figurine, une personne qui serait là et puis voilà, on s'imagine à ce moment-là, en écoutant ce disque, l'histoire de cette personne à travers des morceaux. Donc l'idée de la Cheerleaders est née à partir de ce moment-là. Voilà.
Mmh.
Que je. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu l'impression que le projet, mais sans que ça vous pose préjudice, vous échappe d'une certaine manière? Ou est-ce que c'est finalement une œuvre collective? Est-ce que vous étiez dans une sorte de, pris dans un tsunami, dans un tourbillon de choses, de par tout ce que vous avez raconté, c'est-à-dire les moyens soudainement, pas que le côté studio, on est dans un magasin de gens, on ne sait plus quoi faire, où chacun avait des idées, où le producteur apporte énormément de choses, où chacun, etc. Où c'était vraiment une sorte de courant collectif, de... Comment vous êtes vu dans tout ça?
Ben, je me suis absolument pas posé la question de savoir si le projet m'échappait ou pas. Ce qui m'importait, moi, d'abord, c'est que les gens qui participaient à ce projet soient heureux. Voilà. Et la manière de rendre les gens efficaces sur un travail et de les rendre heureux de travailler ensemble, c'est justement de faire en sorte que ça soit un peu le projet de tout le monde. C'est-à-dire que je n'impose rien à personne. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, on discute et puis voilà, on est des grandes personnes. Mais l'idée, effectivement, c'est un projet... c'est pas facile de faire un projet comme ça quand on est saxophoniste, puisque le rapport entre le sax et cette musique-là, il est quand même assez lointain. Donc c'est un peu aussi un challenge.
C'est la question suivante, justement, par rapport à ça. Mais effectivement, c'est vrai que c'est...
Mais donc, bon, pour répondre justement à la question précédente, c'est comme je le disais, c'est un truc collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun a porté sa pierre à l'édifice. Et l'histoire, elle est née et puis elle aboutit comme ça. Si ces gars-là n'avaient pas été là à ce moment-là, le projet aurait été complètement différent.
Comment on arrive justement à... on a parlé de plein de choses différentes, plein d'influences, cette histoire de fanfare liée vraiment à l'enfance, etc., et à grandi, les origines et tout. À côté, le jazz, vous venez.
Bien sûr.
L'importance aussi de tout ce qui est rock et un peu progressif, peut-être, je ne sais pas, scène de Canterbury ou autre, ou Pink Floyd,
ouais.
Soft Machine, toutes ces choses-là.
Ouais.
Et comment on arrive justement à, en ayant plein de matières, à arriver à ordonner tout ça, arriver à... Est-ce que ça... Votre idée, alors vous avez... Très bien, c'était long, mais finalement c'est intéressant de voir comment ce projet a abouti. Mais est-ce que vous avez eu des volontés dès le départ, justement, par rapport à ces assemblages d'influences, de genres, et même aussi la problématique que vous avez soulevée, c'est-à-dire que là, vous êtes saxophoniste, avec comment on intervient là-dedans, c'est-à-dire en tant qu'arrangeur, que leader de groupe, d'une certaine manière, que chef, comment tout ça s'est... agencé.
Ben, en fait, il y a une grande part d'inconscience, d'insouciance dans tout ça. C'est-à-dire que j'ai absolument rien préparé, dans la mesure où j'ai tendance à faire confiance aux gens avec qui je bosse et puis à la fatalité. C'est-à-dire que un projet, il arrive justement parce que je parlais de prise de risque, mais effectivement, il y a de grosses prises de risque parce que toutes ces influences, elles arrivent en même temps. Plus les influences des autres musiciens, ce qu'ils ont écouté et tout ça. Enfin, c'est-à-dire que je ne sais pas, à la fin, je ne sais pas où tout ça va nous mener. Il y a des choses que j'aime bien dans le rock progressif, il y a des choses que j'aime bien dans le jazz, il y a des choses que j'aime bien dans la musique classique, dans la musique traditionnelle, populaire et tout, puisque je suis un amoureux de toutes les musiques, quelles qu'elles soient. Et du coup, effectivement, c'est un petit truc, une petite poussière de ce qu'il peut y avoir comme mélange dans ma tête, de... rien n'est vraiment défini, comme je disais, c'est un truc un peu insouciant, inconscient. C'est juste, c'est comme ça. Et puis voilà. À un moment donné, je me dis tiens, je veux des voix sur ces morceaux-là. Pourquoi? Je sais pas, mais j'en veux. Je les entends. Là, je pense à comme vous le disiez, à Pink Floyd, Dark Side of the Moon, parce qu'il y a des voix. Et puis je me dis j'aimerais bien aussi avoir ça moi sur mon disque. Il n'y a pas de raison qu'il y ait ça que sur des grands disques comme ça. Et donc voilà, on fait des arrangements, il y a 5 chanteuses qui viennent et puis qui viennent poser des voix. Voilà, c'est en même temps c'est assez difficile à expliquer.
Ça peut être un piège aussi, justement.
Ah, ça peut
de se retrouver avec, justement, vous avez dit, je suis fan, j'aime toutes les musiques, j'ai plein de choses qui d'arriver. Est-ce qu'on peut aussi, parfois, est-ce que, par exemple, dans ce projet, même si, effectivement, le déroulement que vous avez décrit répond un petit peu de manière plutôt positive, mais est-ce qu'il y avait un risque, à un moment, justement, de se perdre dans ce que vous avez eu des moments où vous avez eu l'impression de dire, mais où est-ce que je vais exactement ? Vous avez parlé d'insouciance et d'inconscience, un peu, mais vous l'avez présenté de manière plutôt positive, au contraire.
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu un moment, quand même, où vous vous êtes dit, mais... Est-ce que vraiment on va accoucher de quelque chose qui va vraiment avoir, qui va nous plaire tout simplement, ou qui va avoir une...
Bah, je crois que j'ai l'insouciance de me poser cette question, donc je ne me la pose pas. non, encore une fois, si, il y a toujours des moments où on est plus fragile que d'autres dans une vie et puis que les choses vont bien, et puis quand les choses vont trop bien... Ah, il y a un truc qui arrive et on se dit mince, il y a ça et pourquoi je me suis pas. Ouais, je sais pas. Les choses, elles sont là, elles sont arrivées et puis elles existent. Elles sont sur un disque maintenant, donc ce projet il est immortalisé et puis voilà.
Comment vous voyez votre jeu ? Alors là, je parle plutôt aux saxophonistes aujourd'hui. Ouais. Après, ce projet, même un peu le précédent aussi, ces deux projets un peu. Même si c'est tout le temps vous-même, comme vous l'avez dit, mais qui sont un petit peu, on va dire, différents de ce qui s'est passé par la suite. Comment a évolué, vous trouvez, votre jeu ? Comment vous vous sentez depuis ces deux projets par rapport à avant ? Est-ce que pour vous, c'est la même chose ? Il n'y a strictement rien ? Est-ce que vous entendez, vous voyez des choses différemment maintenant ?
J'ai l'impression que j'assume beaucoup plus ce que je fais, ce que je joue maintenant qu'auparavant. C'est aussi le privilège de l'âge ou de l'expérience, mais je sais ce dont j'ai besoin au niveau du saxophone et quand vient me manque, je cherche à le combler de manière à ce que les choses reviennent dans l'ordre. Je suis très exigeant sur le saxophone, sur le son, sur le tempo. Ça, pour moi, ce sont des choses primordiales et très très importantes. Donc ça, c'est vraiment une une obsession, vraiment, où je pense sans arrêt à interpréter une mélodie, faire en sorte de faire passer du courant, de faire en sorte que les gens qui m'écoutent soient sensibles à l'interprétation, rien qu'une interprétation pour le thème. Pour moi, c'est tellement très important et presque plus important qu'un discours d'improvisateur après. Mais la note, quoi. Faire en sorte qu'on soit sensible à une interprétation quelconque. Ça, c'est, je suis obsédé par ça. Donc, maintenant, je sais dans quel sens il aurait ou il a évolué. Le jeu...
Il m'a mis dans un contexte, déjà, ce jeu, dans le contexte particulier de cet album.
Bah, c'est-à-dire que on parle souvent, on fait souvent référence à un album de rock avec des mélanges de bebop. Oui, parce que le bebop, c'est une musique, c'est ma musique de cœur, c'est une musique dont je me suis toujours inspiré. C'est cette musique qui m'a fait rentrer dans le jazz. J'ai travaillé des heures et des heures, des choruses de saxophonistes bop comme Charlie Parker, Sonny Stitt, j'en passe d'autres. Et pour moi, c'est une... C'est une nourriture, en fait. Voilà. Cette musique qui est pour moi une nourriture. C'est-à-dire que maintenant, ça va être un petit peu dans le contexte de Cheerleaders où il y a ce côté un peu de plein d'influences différentes. Et ben mon son de sax et mon jeu de sax va être aussi influencé par ça. C'est-à-dire que par moment, j'ai envie plus dans un contexte plus traditionnel, plus bebop, mais par moment, j'ai envie plus me libérer de l'harmonie pour faire en sorte que... C'est par rapport aux images que je perçois à ce moment-là et à ce qu'il y a autour, la musique qu'il y a autour, ça change tout le temps, ça évolue tout le temps, les improvisations sont toutes différentes et voilà.
Quand on est, fan de musique et qu'on est musicien en même temps, comment on voit sa propre musique ? C'est-à-dire que vous êtes fan de musique, on a cité plein de noms depuis le début de notre entretien, il y en a d'autres avec lesquels vous avez grandi, que vous avez écouté, etc. Donc des choses que vous appréciez pour ce qu'elles sont et que vous resituez dans une évolution musicale. Et en même temps, vous êtes dans le film aussi, vous êtes dans la salle et dans le film.
Ouais.
Est-ce que vous, de temps en temps, sortez de votre enveloppe pour regarder ce que vous faites ? Vous avez énormément parlé de l'instinct, la façon dont vous ressentiez les choses, etc.
Ouais.
Mais est-ce que vous vous situez, ou dans cette grande aventure, et c'est comment vous voyez?
Oh là là, c'est une question, je sais pas.
Terrible.
Pardon?
Terrible.
Ouais. C'est une question terrible. Bon, il y a quelque chose de très difficile pour moi, c'est de me réécouter. Ça pardonne pas. C'est-à-dire que j'entends que mes défauts. Donc, c'est par exemple m'entendre à la radio. Moi, j'ai envie de zapper tout de suite. Où il y a certains endroits où tu vas jouer et les gens sont contents de t'avoir, donc pour te faire plaisir, ils vont mettre ton disque en musique de fond. Pour moi, ça c'est terrible parce que il y a encore récemment là, il y a un type qui m'a dit ah, je suis content de t'avoir, t'as vu là, je passe ton disque là, mon premier disque en 2001 Cherokee. Dit, ah, t'as vu, je suis en train de mettre ton disque. Je dis ouais, oui, bah c'est
ça. Faut pas mettre autre chose.
Ouais, je... Mais bon, j'ose pas le dire. Et puis voilà, parce que je sais que ça leur fait plaisir. Donc, je veux pas rentrer dans un truc voilà, complexe, le complexe de l'artiste. Non, alors non, je ne supporte pas m'écouter. Tu comprends, enlève mon disque. Non, mais voilà, pour moi, c'est difficile. C'est une étape. Cheerleader, c'est une étape. Et il y a toujours un moment où j'écoute beaucoup l'album. Vraiment. Et puis, un moment où je ne l'écoute plus. Puisqu'on est dans un contexte de jouage, de faire des concerts. Donc voilà, je l'entends quand on joue. Mais même quand on fait des émissions de radio, enregistrer tout ça, j'ai pas envie de réécouter ce qu'on fait. Pendant la construction, j'écoute beaucoup. Quand le disque est terminé, quand il vient d'être mixé, je l'écoute beaucoup. J'essaie de voir comment c'est cohérent, comment les morceaux sont cohérents et tout ça. Et puis à un moment donné, plouf, j'arrête de l'écouter.
Même si c'est un projet de positif au sens de choix esthétique, etc. Quand on est sur une planète qui s'appelle, enfin le jazz, pour parler des étiquettes au début, etc.
Ouais.
Qui a tendance à beaucoup s'auto-questionner sur qu'est-ce que le jazz en 2011, etc. Est-ce que c'est une musique de répertoire? Est-ce que c'est en plus une musique qui est quand même assez jeune, on va dire.
Ouais.
Quand on y réfléchit.
Ouais.
Est-ce que pour vous c'est des choses à balayer d'un revers de main? C'est pas vos préoccupations? Vous y répondez juste par ce genre d'album, par exemple?
Bah oui, et puis on a des exemples sous les yeux quand même. Faut pas oublier que des gens comme Miles Davis ont été vraiment des précurseurs de ce courant-là, et puis surtout des exemples pour nous, quoi, puisque entre Kind of Blue et We Want Miles, il y a une grosse différence, et que qui, enfin bon, voilà, les rapports, je pense que c'est une évolution complètement logique. En un an, jazz ou pas jazz, voilà. Pour moi, c'est voilà, c'est de la musique. Elle est bonne ou pas bonne, et puis point barre, quoi. Les influences sont là. Certes, dans ce groupe, il y a beaucoup de jazzman, dans le sens où il y a des gars qui vont faire des concerts en petite formation dans les clubs de jazz et tout ça. Donc, les influences, parce qu'on écoute tous du jazz, parce qu'on écoute tous Parker ou Coltrane ou Miles, voilà. Donc ça c'est jazz puisqu'on en écoute, mais après c'est une évolution.
Comment on emmène un tel projet sur scène?
Alors il y a deux possibilités.
Pour un disque aussi studio, enfin en même temps qui est très.
Bah oui, qui est très produit. Très produit, bien sûr. Mais la question est intéressante parce que alors ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va avoir un ingé son avec nous qui s'appelle Manu Gallet, qui est un espèce de petit génie dans le genre de son de façade. Et puis il y a deux possibilités. Il y a le quintet sur scène avec des déclenchements de samples qui sont des samples des interludes de fanfare pour les petits clubs, notamment la sortie du disque au Sunside le 3, 4, 5 novembre avec deux concerts par soir, un à 20h et un à 22h. Et donc là où je vais avoir une petite panoplie de pédales et je vais construire les interludes en fonction de ça. Mais sur des grandes scènes, on aura une vraie fanfare. Parce que l'idée, justement, étant de brancher des musiciens locaux et de leur proposer de jouer, de partager un moment de musique avec nous sur une scène. C'est-à-dire que ça peut être des amateurs, des jeunes, des vieux, des moins jeunes, enfin, ce qu'on veut. Mais il y a une orchestration définie, il y a des partitions, il y a une instrumentation. Donc on se met en connexion avec le chef de l'harmonie d'une ville Et voilà. Et moi, avant le concert, je viens deux ou trois fois travailler avec les gars. Et puis le jour du concert, hop, tout le monde joue ensemble. Voilà. Et ça permet de passer un moment de musique avec des gens que tu connais pas. Et puis aussi, les organisateurs de spectacles aiment bien ça, puisque ça fait venir des gens du coin, ça fait jouer des gens du coin avec des gars qui sont pas forcément du coin.
Et de sortir du studio le projet en même temps, de le sortir par rapport à ce côté produit, etc.
Oui, absolument. Mmh. Mais on va quand même garder un petit côté de production sur la scène comme ça. Et donc voilà.
Déjà à l'esprit, vous avez la suite de ça. Vous avez, est-ce que ce projet, là, bon, vous en sortez, il vient juste de sortir. Il y a ces projets de scène. Est-ce que, mais déjà, vous avez ce projet, vous pousse vers certaines choses?
Ah non, du tout. Pour l'instant, non. Je suis. je vais essayer d'assimiler un petit peu tout ça, mais d'assumer tout ça déjà. Et mais non, pour l'instant, j'ai pas pensé à un projet, une suite de ce truc-là.
Ouais, au contraire, une volonté d'aller vers un projet diamétralement opposé.
Ça peut. Maintenant, j'ai un contrat chez Act, donc qu'il va falloir que je fasse des disques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais alors, faire quoi comme disque, je sais pas encore. Ça va être Les choix peuvent être complètement différents. Est-ce que je reste dans un truc de production comme ça? Est-ce que je fais un truc plutôt minimaliste?
C'est ouvert.
C'est ouvert, ouais, complètement.
Des disques, justement, vous en écoutez beaucoup, vous
non. Non, j'en écoute pas beaucoup. C'est par période, en fait. Mais j'en ai tellement écouté que voilà, je suis plus maintenant, j'écoute plus la radio, des choses comme ça, quand j'écoute de la musique.
Des choses autres que
ce où
que
je suis, ou alors j'ai pu découvrir des choses sur Internet. Quand on me parle d'un projet, je vais plutôt aller sur Internet le découvrir, mais c'est vrai que les disques, malheureusement, j'en écoute pas trop.
Les concerts, vous y allez souvent ou de temps en temps?
Alors les concerts, oui, fatalement, puisque comme je joue assez régulièrement, il y a toujours un moment donné où tu vois des gens, acheter un billet de concert, ça n'est pas arrivé depuis longtemps. Qu'est-ce que je suis allé voir récemment? Oui, mon dernier concert, c'était le concert de Roger Waters à Bercy, sur The Wall.
Donc gros fan du Floyd.
Ouais, carrément. Ouais, vraiment. Ouais.
Ça n'a pas changé depuis... C'est toujours en vous depuis longtemps?
Ouais, toujours. C'est le... Ouais, oui, pas que de ce... J'en parle souvent, c'est vrai, mais pas que du Floyd, mais
oui, non, bien
pour
sûr,
moi c'est ouais. C'est quelque chose de j'aime bien en parler, j'aime bien ça, c'est des disques que j'aime bien écouter avec d'autres musiciens, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, le son de ce groupe, tout quoi.
Bien, on peut écouter on entendra des bribes de Floyd dans Cheerleader en écoutant ça et là. Donc je rappelle que l'album sort sur le label Act. Merci Pierrick Pédron.
Merci à vous, merci beaucoup.
Bye.
Cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.